France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, seconde partie, 1993-1995, premier ministre bis. En 1988, le premier passage de Charles Pasqua à Place Beauvau s'achève sur l'échec de Jacques Chirac à la présidentielle. Alors le mécanicien de la machine RPR lui tourne le dos et se met à son compte, ralliant un autre rebelle, Philippe Séguin. Ensemble, en 1992, ils mènent campagne contre le traité de Maastricht. Et, même s'ils échouent au référendum, ils rassemblent autour d'eux un électorat populaire souvent jeté dans les bras du Front National. Durant cette période, Charles Pasqua trouve un ancrage local, les Hauts-de-Seine. Et curieusement, il ne coupe pas les ponts avec François Mitterrand. Non, les deux hommes ont une estime mutuelle qui tient à leur passé de résistant. Alors, secrètement, ils se rencontrent, régulièrement même, après la partie de golf du président, le vendredi à Louveciennes, pour partager un déjeuner. Une tradition qui perdure jusqu'au retour de la seconde cohabitation, quand en 1993, la droite écrase la gauche et que Charles Pasqua retrouve les clés du ministère de l'Intérieur. Notre invité aujourd'hui, Serge Slama, professeur de droit public à l'Université Grenoble-Alpes, plus précisément au Centre de recherche juridique affilié à l'Institut Convergence-Migration. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Marjolaine Corr, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Ronxin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Il se serait bien vu ministre de la Défense, Charles Pasqua, pour cette seconde cohabitation. Mais Beauvau lui colle tant à la peau qu'Édouard Balladur, alors nommé Premier ministre, lui demande de retourner à l'Intérieur. « D'accord, répond Charles Pasqua, mais à une condition, qu'on ajoute à ses fonctions l'aménagement du territoire. Celui qui, entre les deux cohabitations, est devenu président du Conseil général des Hauts-de-Seine, s'est découvert une appétence pour les collectivités locales. » Invité sur les plateaux après sa nomination, il précise sa pensée, utilisant un terme qu'on entendra beaucoup lors de la présidentielle suivante, dans la bouche de Jacques Chirac, que pourtant Pasqua ne soutiendra pas, nous y reviendrons. Ici, il répond à Anne Sinclair sur le plateau de 7 sur 7.
Nous aurons dans quelques années une France non pas coupée en deux mais en trois. Nous aurons un tiers à peu près des gens qui bénéficieront du progrès économique. Nous aurons un tiers de gens qui auront un emploi, où ils végéteront plus ou moins. Puis nous aurons un troisième tiers, pour lequel la seule question qui se posera, c'est de savoir si les deux autres tiers pourront continuer à les assister encore longtemps, parce qu'ils n'auront pas d'autres moyens de subsistance.
Là, vous parlez plus en termes de répartition sociale que de répartition géographique.
Mais parce que la France est à la limite de la fracture sociale, et cette fracture s'exprime de deux manières. Il y a d'abord l'hyperconcentration dans les villes, dont vous venez de parler, 80% de la population rassemblée dans les villes, avec la désertification des campagnes. Et il y a ensuite autre élément de fracture dans le domaine social, ce déséquilibre et le fait qu'il y a de plus en plus de gens laissés sur le bord du chemin.
Charles Pasqua est donc ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. Est-ce à dire pour autant qu'il va abandonner sa casquette de premier flic de France? Certainement pas. D'ailleurs, Édouard Balladur lui demande de réfléchir sans délai aux problèmes de nationalité, d'immigration et de sécurité. Les premiers jours sont marqués par trois bavures policières. À Paris, à Vatrelot dans le Nord et à Chambéry, où à chaque fois, de jeunes garçons sont tués. Devant cet enchaînement, le ministre déclare qu'il sera impitoyable avec ceux qui commettent des fautes. Mais il ajoute qu'en revenant en place Beauvau, il a trouvé une police démotivée. Certains lui rétorquent qu'elle a peut-être été un peu trop motivée par l'annonce de son retour. À la suite de ces affaires, un groupe de magistrats, avocats et médecins décide de créer le groupe Vigilance Civique pour se constituer partie civile en cas de bavure policière. Certains semblent garder un souvenir cuisant du précédent passage de Charles Pasqua, place Beauvau et surtout de l'épouvantable affaire Malik Oussekine. Pour répondre à la demande d'Édouard Balladur, dès le 5 avril 1993, des vagues de contrôle d'identité sont organisées dans les quartiers parisiens de Barbès et de la Goutte d'Or, comme en 1986. Des centaines de personnes sont contrôlées. 10 jours plus tard, au Conseil des ministres, Charles Pasqua présente un plan sur la sécurité en France, plan qui comprend 3 axes, la lutte contre la drogue, l'extension du cadre des contrôles d'identité et la répression de l'immigration clandestine. Dès la fin du mois, il présente son projet de loi immigration.
Ce document de 24 pages n'est encore qu'une ébauche, mais c'est l'ossature de ce qui sera bientôt le projet de loi Pasqua sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. En fait, une réforme point par point des dispositions précédentes, jugées trop laxistes. Le projet Pasqua, dans sa mouture actuelle, durcirait considérablement la législation sur les étrangers en abordant toutes les composantes de l'immigration. Exemple, possibilité pour les maires de lutter contre les mariages blancs. Exemple, carte de résident longue durée plus difficile à obtenir, y compris pour les enfants étrangers arrivés avant l'âge de 10 ans, ils n'obtiendraient plus automatiquement cette carte à leur majorité. Exemple encore, limitation du regroupement familial, suppression des recours lors des reconduites à la frontière.
Parmi les gestes symboliques, les enfants nés de parents étrangers ne deviendront pas effectivement et automatiquement français à leur majorité. Non. Ils devront entamer des démarches administratives avant leurs 21 ans. Ensuite, la délivrance d'un titre de séjour est conditionnée au fait d'être entré légalement sur le sol français. Les associations de défense des droits humains s'en émeuvent et alertent sur la situation de centaines de familles qui se trouvent projetées dans un vide juridique. Leurs enfants, nés sur le sol français, pourront demander la nationalité. Mais eux ne sont pas régularisables du fait de leur entrée illégale sur le territoire. Ils ne peuvent donc plus s'extraire de la clandestinité. Alors, le débat s'ouvre sur les notions de droit du sol et de droit du sang. Nous y reviendrons également. En tout cas, le gouvernement garde le cap et donne avec ce projet de loi des pouvoirs beaucoup plus étendus à la police en matière de filtrage des demandes d'asile et de reconduite à la frontière. Cette loi, couplée à 2 autres sur la maîtrise de la délinquance et les contrôles d'identité, fait descendre la gauche et les associations dans la rue.
Ils s'étaient donné rendez-vous et ils y étaient. Les ténors, peu nombreux, et une foule d'anonymes venus à l'appel d'une centaine d'associations, syndicats et partis politiques de gauche.
On ne réglera pas le problème des gens qui veulent fuir des pays mouroirs en installant des murs de CRS entre les individus.
Défilé dans le calme à Paris, 20 000 personnes, mais aussi dans une cinquantaine de villes de province, comme ici, à Lyon. En ligne de mire, les textes de loi sur l'immigration, les contrôles d'identité et la nationalité. Manifestation ponctuée de slogans anti-Pasqua.
Ce que craignent les opposants face à ces textes de loi, c'est le risque d'association entre délinquance et immigration. Le fait de vouloir élargir le cadre permettant de procéder à des contrôles d'identité passe mal. Alors le gouvernement répond qu'il est quasiment impossible, avec le cadre législatif en vigueur, de procéder à des contrôles d'identité préventifs. Il faut que les personnes aient eu au préalable un comportement quasi délictueux. Autrement dit, quand les contrôles d'identité sont contestés, les plaignants sont quasiment sûrs de gagner en justice. En réformant la loi, justement, le ministre souhaite des opérations de contrôle de grande ampleur, comme celles qu'il mène en réalité déjà du côté de Barbès. Mais les juges craignent un glissement. L'Union syndicale des magistrats, connue pour ses positions modérées, comme le syndicat de la magistrature, plus à gauche, pointe le risque de s'appuyer sur des traits physiques pour déterminer qui doit être contrôlé. Elle craigne le contrôle au faciès, disons-le clairement. Et les juges n'ont pas tort de s'inquiéter. Quand le projet de loi arrive à l'Assemblée, en juin, le député RPR Alain Marceau ajoute un amendement on ne peut plus clair. Il préconise que soit inscrit dans la loi le fait que les policiers peuvent contrôler l'identité d'une personne en se fondant, je cite, « sur tout élément permettant de présumer la qualité d'étranger autre que l'appartenance raciale ». Sur les bancs de la gauche, la levée de bouclier est immédiate. Et certains viennent à se demander si cet amendement n'est pas un cheval de Troie confié à un proche de Charles Pasqua, cet Alain Marceau, pour que la demande paraisse provenir de la base.
Alain Marceau a-t-il pris tout seul le risque de faire voler en éclats l'équilibre négocié entre le RPR et les centristes sur les 3 textes concernant les étrangers? À l'heure où Charles Pasqua recentre son image, Alain Marceau est le porte-voix de la frange dure du RPR et pourquoi pas, comme certains le pensent, le bras séculier du ministre de l'Intérieur.
En se plongeant dans les archives du ministère de l'Intérieur, on trouve effectivement cet amendement étudié un mois plus tôt par les services du ministre. La formule alors retenue est quasiment la même. Tout élément permettant de présumer la qualité d'étranger peut fonder une telle réquisition, sauf les traits physiques. Physique, donc, au lieu de racial, dans la version d'Alain Marceau. Cette partie n'a pas été intégrée au projet présenté par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée. Elle revient donc comme par la fenêtre. Comme si Charles Pasqua n'en était pas à l'origine. Une méthode reconnaissent aujourd'hui ses conseillers qui l'utilisaient parfois. Comme l'a aussi fait la gauche d'ailleurs, sur d'autres sujets. C'était une manière de s'en remettre au vote du Parlement et de donner ainsi une impression de magnanimité. Sauf que deux autres ministres d'État s'en mêlent. Simone Veil aux affaires sociales et Pierre Mahinerry à la justice font voir Édouard Balladur pour lui demander d'arbitrer. Les deux appartiennent à l'UDF. Ils représentent, disons, la frange la plus modérée du gouvernement. Et ils obtiennent gain de cause. L'amendement Marceau est édulcoré avant que le projet de loi ne poursuive son chemin législatif. Reste que dans l'esprit des Français, la combinaison de tous ces textes donne le ton voulu par ce nouveau gouvernement. Le 19 juin, 150 000 personnes défilent dans les rues de Paris, au rythme des slogans qui visent le ministre clairement, genre « casse-toi Pasqua » ou « combattez le sida, pas les immigrés ». Jean Glavany, alors porte-parole du groupe socialiste, qualifie le projet de ségrégationniste et regrette que l'on fasse de l'immigré la cause de tous les maux que doit affronter la France. Le texte est pourtant voté à 480 voix contre 88 à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel saisi début août rend sa plus longue décision jamais prise depuis sa création. On y lit que le texte porte parfois des atteintes excessives aux droits des citoyens. Le Conseil annule donc 8 dispositions. Et Charles Pasqua est furieux, et il le fait savoir.
Est-ce que vous pensez que notre peuple acceptera ce type de situation? Je ne le crois pas. Je dis simplement que nul n'a le droit d'aller à l'encontre de la volonté du peuple français.
Le ministre met en cause l'impartialité du Conseil constitutionnel, alors présidé par Robert Badinter. Il déclare à l'AFP: c'est un secret de polichinelle de dire qu'il y a au Conseil des gens qui ont un engagement politique, tout le monde le sait. L'un des articles censurés pose particulièrement problème. Il prévoyait qu'un étranger, dont la requête a été refusée dans un autre pays européen, ne puisse plus déposer de demande d'asile en France. Pour le ministre, c'est une manière de compenser la création de l'espace Schengen, synonyme de fin des contrôles aux frontières, comme il l'explique à la marche du siècle.
Ce que le gouvernement français refuse, c'est que l'instauration de cet espace unique européen, qui a comme conséquence de repousser les frontières de la France aux frontières externes des 12 et de permettre la libre circulation des personnes et des biens, nous ne voulons pas que ça se transforme en libre circulation des délinquants, des truands et de la drogue.
Et Charles Pasqua est prêt à tout pour réintégrer cette disposition de la loi. Il décrète donc que si la Constitution ne permet pas de faire passer cet article, eh bien il n'y a qu'à la modifier, la Constitution. Cette question devient presque un point d'honneur. Et à cette occasion, lui qui n'a jamais été vraiment proche d'Édouard Balladur, découvre un Premier ministre assez loin de l'image de Balamou qui lui colle à la peau. Car le chef du gouvernement le suit sans sourciller et approuve sa proposition de révision constitutionnelle urgente. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Charles Pasqua, deuxième volet, 1993-1995.
France Inter, Affaires Sensibles.
Rentrée 1993. La situation se crispe du côté de l'Algérie, où les islamistes qui ont gagné les élections sont écartés du pouvoir. Des attentats et des règlements de compte se propagent dans le pays et commencent à toucher des ressortissants français. Fin septembre, deux jeunes géomètres sont assassinés. Le 24 octobre, trois fonctionnaires sont pris en otage. Pour Charles Pasqua, le risque islamiste grandit des deux côtés de la Méditerranée. Et plus la situation devient délétère en Algérie, plus le réseau islamiste se renforce sur notre territoire. Un premier coup de filet, baptisé Opération Chrysanthème, est organisé dans les milieux islamistes algériens. 88 personnes sont interpellées et des revues de propagande sont interdites de diffusion. Le ministre de l'Intérieur veut envoyer un message sans équivoque.
La communauté musulmane qui est installée en France, la communauté musulmane d'origine étrangère, de même que les Français musulmans qui pratiquent cette foi, n'ont rien à craindre. Ils sont dans le cadre de notre système qui garantit la liberté du culte. Nous ne sommes pas concernés. Mais il n'est pas question pour nous d'accepter qu'un certain nombre d'organisations, d'associations qui se prétendent cultuelles, en réalité, utilisent leurs associations à d'autres fins, et notamment pour implanter sur notre sol des bases arrières d'organisations intégristes qui peuvent se livrer ailleurs, voire même sur notre sol, à des actions terroristes. Ça, nous ne l'accepterons pas.
Cet automne-là est aussi l'occasion pour Charles Pasqua d'enfiler sa casquette de ministre de l'Aménagement du Territoire. Au programme, un vaste projet destiné à éviter cette fracture sociale qu'il perçoit comme imminente, on l'a entendu. Une fracture sociale entre les zones urbaines et les campagnes. Il est donc nécessaire, selon lui, de déconcentrer l'État, l'université, la recherche, d'adapter les aides aux entreprises en fonction de l'attractivité des territoires, tout comme il faut adapter les politiques de solidarité. Pour concevoir cette grande loi, il organise une tournée des régions en TGV avec le Premier ministre.
Vous connaissez pourtant mon caractère qui me porte à la conciliation.
Et au libéralisme avancé.
Libéral, Charles Pasqua, ce qui est sûr, c'est que son image a profondément évolué. Lui, que l'on considérait surtout comme le premier flic de France, apparaît désormais en priorité comme le grand aménageur du territoire national. Une idée de génie, le lancement de ce débat à épisodes multiples, pour dessiner l'image de la France à l'horizon 2015. Toutes les régions visitées, des milliers d'élus locaux et d'acteurs sociaux rencontrés en 6 mois, des centaines de dossiers ouverts qui touchent à tous les ministères, au point d'agacer parfois certains de ses collègues qui redoutent l'éclosion d'une sorte de Premier ministre bis aux côtés d'Edouard Balladur. Du côté du Premier ministre, en revanche, les relations sont au beau fixe et une véritable complicité est souvent apparue entre les deux hommes. Est-ce à dire que Charles Pasqua a choisi son camp? Il serait hardi de s'en tenir au lapsus.
Si vous permettez, monsieur le Président. Monsieur.
Aussi surprenant que cela paraisse, cette alliance de la carpe et du lapin semble fonctionner. Et bien même. Parce que Charles Pasqua découvre en Édouard Balladur un homme dont les convictions sont plus fermes qu'il ne le croyait. À l'inverse de ce qu'il reproche à Jacques Chirac, justement. C'est vrai qu'avec Chirac, on est passé d'un travaillisme à la française à un ultra-libéralisme échevelé. Il y en a eu pour tous les goûts. Après avoir tenté des années dures aux côtés de ses conseillers, Marie-France Garraud et Pierre Juillet, de façonner un Chirac gaulliste, Pasqua finit par baisser les bras. Le manque de consistance et de constance de Chirac, et surtout, son échec de 88 ont brisé sa confiance. Alors que sous ses dehors polissés, Édouard Balladur, lui, applique le programme de la droite sans rechigner. Ce rapprochement n'est pas du goût du chef du RPR, évidemment. Jacques Chirac a laissé sa place à Matignon à Édouard Balladur pour pouvoir se concentrer sur la présidentielle de 95, mais cette décision, en fait, la sortie du jeu politique. Situation dont les guignols de Canal se délectent.
Édouard, pas expliquer ça.
De quoi parlez-vous?
Ça, une invitation pour une réunion sur l'aménagement du territoire. Avec Pasqua, je te tiens, tu peux plus nier, là.
Jacques, il y a du monde.
Et alors je m'en fous du monde. Ils peuvent entendre, moi je n'ai rien à cacher. Charles et toi, vous êtes ensemble, je le sais.
C'est pour le travail.
Vous vous affichez tous les deux, c'est répugnant. T'as honte de moi ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon Dieu?
Rien.
Edouard, je sais qu'il est beau et qu'il parle bien.
Ça n'a rien à voir.
Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas regardé, hein? Je sais que 30 ans, c'est long, mais tu vas pas tout gâcher pour une passade. Parce que c'est une passade, hein? Hein, c'est une passade.
Ce titre de Premier ministre bis pour Charles Pasqua commence à poindre dans la presse et dans les éditos. De plus, cette fin d'année 93 s'achève sous une double victoire pour Charles Pasqua. Présent sur tous les fronts depuis la nomination du gouvernement, il est parvenu à faire modifier la Constitution pour faire passer sa loi immigration. Le préambule de la loi fondamentale obligeait en effet la France à examiner les demandes de tous ceux qui se disent persécutés dans leur pays. Édouard Balladur, qui souhaite maintenir une cohabitation tranquille avec François Mitterrand, propose alors un aménagement qui permet au président de garder la tête haute. Désormais, il est mentionné que si le demandeur d'asile est passé par un autre pays, la France peut se donner le droit de lui donner asile. Une petite nuance, certes, mais qui change la donne. Elle n'a plus l'obligation d'examiner son dossier. Cette modification signe le retour de la loi immigration. Dans la nuit du 25 au 26 novembre, le texte est voté dans un hémicycle quasiment vide. Pasqua, le ministre sécuritaire, le défenseur de l'ordre, qui, comme l'écrit Le Monde, se préoccupe au moins autant d'aménager le territoire que de faire en sorte que les habitants s'y tiennent tranquilles. Tout cela peut enfin s'appliquer. Et il attendait ce moment, depuis 1986.
Les problèmes de l'immigration sont devant nous. Je voudrais rappeler qu'à l'Est, nous avons une Russie, les pays de l'ancienne Union soviétique, en tous les cas, leur organisation s'est désintégrée. Si d'aventure il devait y avoir des affrontements, nous n'éviterions pas une grande vague migratoire. Au sud, nous avons l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Nous aurons de toute façon, avant la fin de cette décennie, 130 millions de maghrébins, de musulmans, sur cette partie du territoire, et nous en aurons près de 60 millions qui auront moins de 20 ans et qui seront sans perspective d'avenir et sans ressources. Les risques de déclenchement d'une vague migratoire existent. Et derrière, nous aurons 1 milliard d'Africains. Je suis obligé de prendre des mesures coercitives ou administratives. Le gouvernement y est obligé. Il n'y a pas place chez nous pour les immigrés en situation irrégulière.
En vérité, il n'y a de place ni pour les immigrés en situation irrégulière, ni pour les islamistes. Et sur ces deux points, Charles Pasqua tient à se montrer intraitable. Pour preuve, en décembre, il fait affréter un avion privé pour envoyer 26 Algériens dans leur pays. L'objectif de Beauvau est de doubler le nombre de reconduites à la frontière chaque année. Début janvier, une police de l'immigration voit le jour pour la première fois de l'histoire française. Et son rôle est étendu. Alors que la police de l'air et les frontières contrôlaient principalement les entrées sur le territoire, désormais la DICILEC, c'est son nom, se préoccupe aussi des fabricants de faux papiers, des passeurs et des travailleurs clandestins. Début février, les manifestants descendent à nouveau dans la rue contre les lois Pasqua. Mais c'est une autre manifestation, contre le SMIC jeune, qui va faire des remous. Toujours sur sa ligne dure, par la voix du préfet, le ministre de l'Intérieur décide d'expulser deux étudiants algériens vers leur pays d'origine en urgence absolue et par nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Je reprends ces mots. Ces jeunes, qui vivent en France avec leur famille depuis plusieurs années, auraient jeté des projectiles sur les forces de l'ordre durant la manifestation. Mais deux magistrats cassent cette décision. Ils ordonnent leur retour pour qu'ils puissent être jugés en France, estimant que l'expulsion a porté atteinte à leurs droits fondamentaux. Un bras de fer s'engage alors avec Charles Pasqua, qui n'entend pas laisser les juges créer une jurisprudence contraire à la loi.
Le rôle des magistrats, ce n'est pas de faire la loi. La loi est faite par le Parlement. Le rôle des magistrats, c'est d'appliquer la loi. Dès lors que certains magistrats ne l'appliquent plus, il faut s'interroger.
Cette phrase provoque protestation et indignation dans les rangs de la magistrature. Pierre Mienry, le garde des Sceaux, est contraint de réagir pour calmer le jeu. Reste que cette démarche est remportée par les juges, car les deux jeunes étudiants algériens auront bien le droit de rentrer et d'être jugés en France. L'année 1994 n'est pas moins riche en projets de loi du côté de la place Beauvau. Le premier flic de France fait voter un vaste plan pour moderniser la police et la gendarmerie, doté de 8 milliards de francs sur 5 ans. Et l'aménagement du territoire poursuit également son chemin. C'est une loi qui coûte cher, très cher. Il faut donc convaincre le ministre du Budget, un certain Nicolas Sarkozy, qui rechigne à aligner autant d'argent pour réduire les inégalités de développement entre les régions. Encore une fois, fidèle à ses valeurs et à sa volonté d'imposer sa vision, Pasqua n'y va pas par quatre chemins. S'il n'obtient pas un arbitrage en sa faveur, il démissionnera. Et il se trouve qu'Édouard Balladur prend tout cela très au sérieux. Le 7 mai, les trois ministres parviennent à une entente. À vrai dire, après avoir parcouru la France aux côtés de Charles Pasqua, et si proche de la prochaine présidentielle, Édouard Balladur ne peut pas donner le sentiment de retirer la main tendue au territoire délaissé. Mais dans les faits, même si ce projet de loi posait la base de principes nobles, comme la péréquation entre les collectivités, ses moyens ne sont pas si conséquents, et il sera rapidement désossé lors des législatures suivantes. Et puis, arrive cette information.
Caché sous une couverture jaune, le terroriste le plus recherché du monde, Carlos, il dormira ce soir à la prison de la santé. Illich Ramirez Sanchez a été arrêté à Khartoum, la capitale soudanaise. Arrivé à 10h15 ce matin à l'aéroport militaire de Villacoublay, Carlos a été immédiatement transféré derrière ses murs au siège de la DST, la direction de la surveillance du territoire.
En plein cœur de l'été, Pasqua frappe un grand coup. La DST, qui a identifié le terroriste, parvient à le faire enlever, sur ordre du ministre, avec le soutien du gouvernement soudanais. Et ce, d'une manière assez peu orthodoxe. Carlos a été anesthésié avant d'être embarqué dans un avion militaire. Face à la presse, Charles Pasqua assume. Pour lui, tous les moyens sont bons pour ramener et pouvoir juger un terroriste de son envergure. Et quand il dit qu'il assume de protéger la France contre les risques terroristes, il le montre une fois de plus vis-à-vis des islamistes algériens. Au début du mois d'août, il se trouve que 5 fonctionnaires français sont tués dans un attentat à Alger. En guise de représailles, Pasqua fait rafler une trentaine d'Algériens en France au prétexte qu'ils seraient islamistes. En réalité, une partie d'entre eux ne l'est pas, mais peu importe. Il les enferme dans une caserne militaire désaffectée, dans l'Aisne, et les somme de choisir un pays de destination. Il leur notifie leur expulsion imminente en urgence absolue, comme pour les deux jeunes Algériens manifestants quelques mois plus tôt. Seulement voilà. Le groupe se mobilise et conteste sa rétention illégale. Il engage des avocats et s'apprête à faire casser cette rétention devant le tribunal administratif. Mais la veille de l'audience, le ministre embarque les détenus dans un charter.
Nous avons appliqué ce matin les arrêtés d'expulsion concernant la plus grande partie de ceux qui avaient été assignés à résidence à Follamboine. J'espère que cela servira de leçon à ceux qui ne respectent pas les lois de la République et aussi celles de l'hospitalité. C'est le pays destinataire qui l'annoncera lors de leur arrivée.
Et c'est dans la journée, vous pensez, monsieur le ministre ?
Dans la journée, oui, dans la journée.
En envoyant 24 Algériens et un Marocain à Ouagadougou, dans un pays qu'ils ne connaissent pas et sans jamais avoir été jugés, Charles Pasqua applique son principe au pied de la lettre. La démocratie s'arrête là où commence la raison d'État. Peu de temps après cet événement, il inaugure la mosquée de Lyon et déclare « Il ne saurait plus y avoir seulement un islam en France, il doit y avoir un islam de France ». Son objectif est d'éviter le prosélytisme de groupuscules tels que les islamistes algériens. Et pour cela, il accompagne le mouvement en lançant une charte et un conseil du culte musulman. Une initiative coordonnée par le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, mais qui n'est pas forcément bien reçue par les différents courants qui composent la religion musulmane en France. De toute façon, cette cohabitation va bientôt prendre fin. La présidentielle de 95 approche. Depuis plusieurs mois déjà, les tensions montent entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Le maire de Paris sent bien que les choses lui échappent et qu'il a fait preuve de naïveté. Malgré la promesse de Balladur de ne pas le concurrencer, eh bien, le Premier ministre voit qu'avec sa cote de popularité, il aurait peut-être plus de chances d'être élu que Jacques Chirac. Dans la presse, des photos des deux hommes marchant côte à côte et semblant s'ignorer superbement racontent cette tension qui monte. Et elle n'est pas du tout du goût de Charles Pasqua, qui depuis des années déjà plaide pour une primaire à droite. Un accord avait même été conclu en 91 entre l'UDF et le RPR. Mais il sent bien lui aussi que sa proposition ne convainc plus grand monde.
Il ne faut pas confondre les primaires avec un combat de chiffonnier. Je dis qu'à l'heure actuelle, les choses prennent une mauvaise tournure. Les primaires, ça consiste à dire il n'y a pas de candidat autodésigné, autoproclamé ou de droit divin. Il n'y a pas non plus un pouvoir qui est reconnu au parti. Dans chaque famille, chacun a le droit de se présenter s'il est porteur d'une idée ou d'un projet pour la France, à condition que les règles du jeu soient bien établies et que chacun s'y soumette.
Charles Pasqua prêche dans le désert. Personne ne veut des primaires. Pour l'instant, car sur ce point, il y aura un changement radical plus tard. Enfin, le 4 novembre 1994, Jacques Chirac prend tout le monde de court. Il déclare sa candidature lors d'un entretien donné à la Voix du Nord. L'UDF, comme le RPR, sont mis devant le fait accompli. Mais les sondages titillent beaucoup trop Édouard Balladur pour qu'il ne réfléchisse pas sérieusement à lui faire concurrence. Le pire, aux yeux de Charles Pasqua, se concrétise le 18 janvier 1995, lorsque son premier ministre officialise sa candidature. La droite a donc deux candidats. À Beauvau, Pasqua se montre partagé. Et auprès de ses conseillers, il l'interroge. Qui rallier Chirac, Balladur? Mais Chirac l'a trop déçu. Et finalement, Balladur, qui l'a suivi sans sourciller dans toutes les situations, mérite peut-être plus son soutien. Ses conseillers ne reviennent pas. Il va laisser tomber Chirac. Ils organisent alors un sondage en interne pour savoir qui, de l'un ou de l'autre, des deux candidats, recueillerait leur voix. Eh bien, à 70%, Chirac l'emporte. Mais Charles Pasqua, amusé, leur répond « Ce n'est pas lui qui m'a proposé d'être son futur Premier ministre. » Le croyait-il vraiment? Nul ne le sait, mais il écrit tout de même une lettre à son ancien ami parce qu'en politique, c'est bien connu, mieux vaut ne pas insulter l'avenir.
Une lettre manuscrite expédiée hier dans laquelle Charles Pasqua rappelle à Jacques Chirac qu'il n'a eu de cesse de le voir assumer les plus hautes fonctions de l'État, une ambition déçue en 88. Pour éviter une double candidature RPR, aujourd'hui, Charles Pasqua souligne qu'il a œuvré envers et malgré tout pour que cette compétition soit arbitrée loyalement avant l'élection et constate qu'il a échoué. Et Charles Pasqua d'ajouter « J'ai décidé d'apporter mon soutien à Édouard Balladur. Il m'apparaît en effet, dans les circonstances actuelles, le plus à même de défendre nos idées tout en rassemblant une large majorité de Français. »
C'est ce qu'on appelle marcher sur des œufs. Et puis le cœur n'y est pas. En tout cas pas autant qu'en 88 où Charles Pasqua avait tout fait pour que Chirac l'emporte. Avec Balladur, ça semble moins évident. Mais d'abord, la presse relève que pour la première fois depuis longtemps, l'immigration n'est plus au centre du débat présidentiel. L'action de Charles Pasqua ces deux dernières années y est peut-être pour quelque chose. En tout cas, Édouard Balladur le clame. La maîtrise de l'immigration, c'est nous. Le ralliement du ministre de l'Intérieur, de l'homme chaleureux, méditerranéen, celui qui avait rassemblé un électorat populaire lors du référendum de Maastricht, ne contribue pas à fédérer les voix nécessaires. Non. Parce que Balladur est trop froid, trop distant, trop bourgeois. Il comprend la France, l'homme est compétent, mais il semble ne pas comprendre les Français. Aux antipodes d'un Pasqua, en quelque sorte. Au fil des années, les courbes des sondages s'inversent. Jacques Chirac y a Philippe Séguin dans son camp, l'acolyte de Charles Pasqua dans leur croisade contre Maastricht, celui avec qui il a théorisé la fracture sociale, fait carton plein sur ce thème rassembleur. Ministre de l'Intérieur pour quelques jours encore, Pasqua comprend, la défaite de Balladur, son candidat, est imminente. De fait, avec 18,5% des voix, troisième, éliminé du deuxième tour, Édouard Balladur descend de son piédestal et de sa morgue. Humilié au soir de ce premier tour, il laisse exprimer son aigreur, sa rage, avec son fameux glacial « Je vous demande de vous arrêter ». Et Charles Pasqua est amer.
Il lui fallut une simple chose, c'est que je sois moi-même candidat aux élections.
Et vous regrettez de ne pas l'avoir été ?
Oui, quand je vois ce qui se passe, oui. L'élection présidentielle, on sait bien que c'est une alchimie. C'est un contact direct entre le candidat et le peuple. Vous pouvez faire prendre toutes les mesures que vous voulez. Vous pouvez faire voter les lois que vous voulez. Dans la mesure même où ce n'est pas vous qui êtes candidat, le message que vous êtes susceptible de faire passer, il ne passe pas si le candidat ne le reprend pas.
Le 10 mai, alors que Dora Balladur fait porter sa lettre de démission à l'Élysée, le ministre de l'Intérieur signe une dernière circulaire. Il demande au préfet de bien vouloir régulariser les parents étrangers d'enfants français coincés dans un statut clandestin du fait de sa loi immigration. Selon la CIMAD, 700 personnes étaient concernées. Charles Pasqua le sait. Ses dernières années à Beauvau étaient sans nul doute le fait de sa carrière. Mais aujourd'hui, ça sent sérieusement la retraite. Charles Pasqua s'est éteint le 29 juin 2015 à l'âge de 88 ans.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, bis repetita. Nous en parlons avec notre invité, Serge Slama. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université Grenoble-Alpes, au centre de recherche juridique affilié à l'Institut Convergence Migration, et vous êtes dans les studios de Ici Isère, anciennement France Bleu Isère. C'est notre deuxième épisode, donc, pour ce deuxième passage Place Beauvau, qui cette fois a surtout été marqué par une série de lois portées par le ministre de l'Intérieur, avec le garde des Sceaux, sur l'immigration, la nationalité, le contrôle d'identité, d'où votre présence avec nous. Vous êtes encore étudiant, je crois, dans ces années 90, et cette période vous incite à vous plonger dans ces questions du droit des étrangers, c'est bien ça ?
Tout à fait, oui, c'est vraiment les lois Pasqua et les lois Debré qui vont venir juste après en 97 qui m'ont emmené au militantisme et à m'intéresser à devenir expert du droit des étrangers, parce que vraiment à l'époque, il y a un certain nombre de juristes qui sont interpellés par ces lois, qui sont dénoncés, qui vont créer beaucoup de sans-papiers. Vous rappelez que juste après, il y aura des occupations d'églises par des sans-papiers et qui ont été produits par la loi Pasqua. Vous parlez à la fin du reportage, précisément de ces parents d'enfants français qui avaient des problèmes de régularisation.
Mmh. C'est le grand débat entre 93 et 95 entre les notions de droit du sol et droit du sang. Rappelons ces concepts, ils sont importants.
Alors c'est une question qui avait déjà émergé en 86,
oui,
lors de la première cohabitation. Notamment, il y avait un rapport à l'époque d'une commission dirigée par un conseiller d'État, Marcelon. Et depuis assez longtemps, la France se posait la question de cet équilibre. Donc on a un droit du sang depuis assez longtemps, depuis au moins le Code civil de 1804. Et on a toujours eu des doses de droit du sol, c'est-à-dire le fait d'être né sur le territoire français permet de devenir français. Mais attention, en France, le droit du sol n'est pas automatique. Mmh. On devient français à la majorité et souvent il y a des formalités. Et l'enjeu à l'époque, c'était de savoir s'il y avait une manifestation de volonté qui était nécessaire pour ces jeunes nés en France de parents étrangers, et le débat va porter là-dessus. Et la loi Meignery, qui sera adoptée juste avant la loi Pasqua que vous avez évoquée, précisément impose la manifestation de volonté.
Alors, on a bien compris le droit du sol. Revenons sur le droit du sang maintenant.
Le droit du sang, c'est on est français du seul fait d'avoir un parent. Pendant longtemps, c'était le père, mais un parent français, tout simplement. Voilà. Il y a parfois des systèmes de droit du sang qui vont sur plusieurs générations. Par exemple, en Italie, c'est assez connu. Les Italiens qui sont partis en Argentine parfois reviennent dans les équipes de rugby italiennes parce que par droit du sang, ils sont toujours italiens, quoi.
Oui, c'était le cas de Jorginho.
Alors là, c'est le football, mais effectivement, c'est le cas.
Alors, cette loi, c'est la loi qui a demandé le plus de temps au Conseil constitutionnel pour l'étudier une fois votée. Pourquoi ? Parce qu'elle soulevait des concepts de constitutionnels adossés à la loi fondamentale, c'était ça ?
Alors, il y a deux phénomènes. D'une part, c'est vraiment une loi de rupture, alors, qui prolonge largement des lois précédentes depuis les années 80, notamment la loi Pasqua de 86, mais pas simplement. Mais elle est de rupture parce que c'est une modification d'ampleur de l'ordonnance du 2 novembre 45. Depuis 45, le général de Gaulle avait proclamé une ordonnance qui réglementait le statut des étrangers en France. Donc, c'est ce texte, essentiellement, qui est modifié. Un petit peu le droit d'asile, c'est une loi de 52. Et la loi est très longue, elle modifie vraiment substantiellement, vous l'avez dit, notamment par exemple sur la liberté du mariage ou sur le droit au recours, etc. Et puis surtout au Conseil constitutionnel, à l'époque, il y a encore des profs de droit. Donc le principal, vous le connaissez, c'est Robert Manater, qui est prof de droit, qui a été ministre de la Justice, avec toute l'autorité qu'on lui connaît, et donc qui préside le Conseil constitutionnel. Mais il y a un personnage qu'on connaît moins à cette époque-là, c'est Jacques Robert, qui est un grand prof de droit, spécialiste des libertés, c'est lui qui rapporte le texte. Mmh. Et c'est Jacques Robert qui, en reprenant des idées d'autres profs de droit, proposent de faire un statut constitutionnel des étrangers. Donc ils vont monter en généralité, ils vont poser vraiment les bases du statut de constitutionnel des étrangers en France, et ils vont en débattre très longuement, hein, c'est deux jours, 12 et 13 août 93, ça fait plus de 100 pages publiées sur le site du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on connaît les débats, hein, ils sont rendus publics. Donc on peut lire ces débats entre les membres du Conseil. Il y a aussi, par exemple, Noël Lenoir qui siège à ce moment-là au Conseil.
Alors, la loi est hors norme, hein, mais point de bascule du droit des étrangers, finalement, c'est la quasi-totalité de l'ordonnance de 45 qui est réécrite. Que contenait principalement cette ordonnance ?
Alors, l'ordonnance de 45, c'est une reprise des textes antérieurs à 38, largement, et c'était l'idée de poser un statut des étrangers, mais aussi de le réglementer, notamment sur l'introduction des travailleurs étrangers et puis les différentes cartes de séjour. Mais cette ordonnance a été beaucoup modifiée à partir des années 80. Il y a notamment une réforme socialiste en 84 qui est importante, qui érige une carte de résident de plein droit. Notamment, on en a parlé tout à l'heure, pour les parents d'enfants français, les conjoints de français, et le groupement familial, etc. Et en fait, les lois Pasqua viennent remettre en cause ces lois-là. La loi de 84, aussi les lois adoptées par Pierre Joxe, notamment 89-90. Et donc, en fait, à l'époque, c'était très fréquent. La gauche défaisait partiellement ce que la droite venait d'adopter. Et quand la droite revenait au pouvoir, elle a durci, ça a continué jusqu'à Manuel Valls, comme ça, ce système de va-et-vient entre droite et gauche.
Est-ce qu'on peut dire que les lois Pasqua constituent une sorte de matrice des politiques migratoires françaises jusqu'à aujourd'hui ?
Totalement. C'est-à-dire, quand j'entendais tout ce que vous avez rapporté, j'avais l'impression qu'on parlait d'aujourd'hui.
Oui, moi aussi, c'est pour ça que je vous pose la question.
L'amendement Marceau, par exemple, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, utilisait la même technique pour la proposition de loi sur la rétention à 210 jours. C'est exactement la même chose, une proposition de loi sur le mariage, et aussi ça. Les contrôles d'identité aux faciès, c'est toujours une question d'actualité. Plus largement, la thématique centrale de la loi Pasqua de 93, c'est la maîtrise de l'immigration, ce qu'on appelait l'immigration zéro. Et puis, on reparle régulièrement de les liberté du mariage, vous savez, empêcher les OQTF, comme on les appelle aujourd'hui, de se marier, ou le droit du sol, le droit du sang, etc. Donc c'est des thématiques vraiment très actuelles, et les solutions données par Pasqua sont encore aujourd'hui les solutions préconisées par les Darmanin, par les Retailleau, et par les différents ministres de l'Intérieur depuis assez longtemps, depuis Pasqua en réalité.
Alors Charles Pasqua avait sorti une phrase, est-ce qu'il l'avait reprise à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais elle paraît quand même très juste, notamment pour combattre la radicalisation. Là, évidemment, tous les émigrés ne sont pas radicalisés, c'est clair et net. Mais il y en a. Et il disait, il ne faut plus un islam en France, il faut un islam de France. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?
Alors c'est une idée qui va être reprise par Sarkozy, on l'oublie, hein, que Sarkozy lui aussi, quand il va arriver place Beauvau, va essayer d'organiser le culte musulman, mais c'est extrêmement compliqué de le faire. On rêverait d'avoir, en fait, c'est la religion juive qui sert de modèle, puisque vous savez que, bon, assez difficilement aussi, mais notamment à l'époque napoléonienne, il y avait un statut des juifs en France qui a été défini avec des représentants du culte juif, et aujourd'hui, les juifs prient pour la République française, quoi. Il y a cette idée-là, donc l'espoir d'avoir un islam qui évoluerait aussi vers une laïcisation, une sécularisation de cette religion. L'organisation de l'islam en France est beaucoup plus complexe. Il y a eu des tentatives par Pasqua, par d'autres ministres de l'Intérieur, hein, c'est vraiment pas les seuls, Daniel Vaillant, Nicolas Sarkozy, d'autres ont essayé d'organiser le culte musulman. Pour un sens, ça n'a jamais vraiment fonctionné, et puis il y a eu malheureusement les attentats et tout ce qu'on connaît par la suite, quoi.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Serge Slama, ce qui est intéressant aussi dans ce second passage Place Beauvau de Charles Pasqua, c'est de regarder la manière dont il se comporte avec les juges et la justice, ce qui doit être normalement l'apanage du garde des Sceaux, pas du ministre de l'Intérieur. Mais ce genre de conflit, on va le retrouver aussi plus tard. Que peut-on en dire concernant Pasqua ?
Alors malheureusement, il a forgé vraiment un modèle qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui chez les ministres de l'Intérieur. Alors, parfois, des ministres de l'Intérieur qui viennent eux-mêmes du ministre de la Justice, hein, on le voit aujourd'hui. Et qu'on voit beaucoup chez Trump aussi. Hein, c'est une dérive où on attaque les juges et on attaque personnellement les juges. On a vu, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy qui est condamné, qui sort de son procès et qui s'attaque directement aux juges qui viennent le condamner en invoquant l'état de droit. Donc Charles Pasqua était beaucoup dans ce registre-là. Alors notamment... Une chose assez classique, mais c'est pas le seul à l'avoir fait, à taper sur le Conseil constitutionnel et à dire que le Conseil constitutionnel est politisé.
Oui.
Alors vous voyez d'ailleurs, là on voit que Trump il dénonce une Cour suprême des États-Unis dont il a nommé plus de la moitié des membres. Donc la politisation. Bon. Et à l'époque, évidemment, on attaque Robert Badinter puisque c'est une figure du socialisme, etc. Alors que le Conseil constitutionnel, vous savez, ils sont nommés pour 9 ans et en fait, il y a un glissement progressif tous les 3 ans et le Sénat, le président du Sénat désigne aussi un membre. Donc en réalité, le Conseil constitutionnel est toujours une représentation plus nuancée que ça. Mais sauf que là, il y a vraiment une attaque des juges. Alors notamment parce qu'il y a eu des désaveux importants, notamment les deux affaires que vous avez citées, les affaires de Follembray, des Algériens de Follembray qui sont assignés à résidence et les juges préconisent leur libération, même s'ils vont être renvoyés. Et ces deux jeunes Algériens qui avaient été renvoyés au moment du SMIC jeune, et qui, là, c'est le juge judiciaire en voie de fait qui ordonne au ministre de l'Intérieur de les rapatrier en France afin de pouvoir les juger au nom du droit au procès équitable. Et là, il dit, les juges, il dit des choses fausses. Il avait un rapport au droit un peu biaisé, comme nos ministres de l'Intérieur actuels, hein, c'est-à-dire le... Il tord le droit, il dit voilà les juges ont inventé vont contre la loi, je sais plus exactement.
Ouais, ils disent en fait le concept c'est la police qui arrête, les juges qui relâchent.
Voilà.
C'est ça en fait. Hein.
Ce qui n'était pas du tout vrai ici, c'était vraiment lui qui n'avait pas respecté le droit. C'était deux jeunes qui va être jugés, qui avaient un droit de séjour en France et l'expulsion n'était juste pas possible, pas légalement possible. Il a tordu le droit.
Alors, quel est votre regard sur ce que propose la gauche en termes de politique migratoire, la gauche d'hier et celle d'aujourd'hui, ou ce qu'il en reste ?
Oui, alors, on a eu en 81, 82 une vraie alternative avec d'autres politiques d'immigration qui ont été menées jusqu'à la loi de 84, j'en parlais tout à l'heure sur le titre unique de séjour, là, avec la carte de résident qui a été généralisée. Mais par la suite, en fait, les socialistes se sont convertis au réalisme à partir de 84 dans un discours de Laurent Fabius, un passage de Laurent Fabius chez Anne Sinclair. Il y a une conversion des socialistes au réalisme migratoire et puis la fameuse image de Michel Rocard sur on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si on doit prendre notre part. Et cette conversion, elle est un peu incarnée dans le passage de Manuel Valls. Finalement, Manuel Valls, c'est un héritier de Charles Pasqua dans la façon de faire Place Beauvau. Et sur plein de questions, en fait, il a prolonger les politiques migratoires menées par Sarkozy, Guéant, Hortefeux précédemment. Il n'y a plus de rupture. Il y a eu des ruptures dans le passé. Chevènement est encore partiellement en rupture par rapport aux lois Pasqua. Je parlais de Pierre Joxe qui était en rupture par rapport aux lois Pasqua de 86. En revanche, aujourd'hui, en fait, il y a une grande continuité des politiques migratoires. Alors, aussi parce qu'il y a beaucoup de politiques migratoires impulsées au niveau de l'Union européenne. Vous en avez parlé d'ailleurs de Schengen, Dublin, de cette révision de la Constitution, etc.
Donc on voit qu'il y a une conversion de la gauche, à la limite des convergences avec la droite, mais il ne reste pas quand même des grands principes de rupture entre l'une et l'autre ?
Non, plus aujourd'hui, objectivement, la loi Valls, une grande partie de la loi Valls a pu être adoptée par la droite. La loi Coulon, je sais même pas si on peut dire que c'est une loi de gauche ou de droite, ou enfin en tout cas plus sûrement. En plus, il y a vraiment le fait que parfois il y a des lois qui sont commencées dans un gouvernement puis prolongées dans un autre. Aujourd'hui, on a ce phénomène-là, donc avec des majorités un peu composites. Alors tout de même, la particularité de la loi Darmanin, la loi Retailleau, les deux dernières lois en la matière, dans ce domaine, c'est qu'elles ont été adoptées par le Rassemblement National. Et ça, c'est une grande rupture tout de même.
De toute façon, toutes les politiques d'immigration sont réceptacles électorales, hein, de toute façon.
Oui, je sais bien, mais en tout cas, la gauche aujourd'hui ne pense plus la question d'immigration.
D'accord.
Donc, c'est un problème plus global. Il n'y a pas de modèle alternatif au modèle qui est en train d'être appliqué depuis plusieurs décennies.
Très rapidement, ce sera ma dernière question. Il reste 30 secondes. C'est quoi pour vous le principe d'une politique migratoire cohérente pour un pays comme le nôtre ?
En fait, il faudrait replacer l'étranger au cœur de la politique d'immigration. C'est-à-dire penser à un service public de l'accueil des étrangers et que l'étranger soit au cœur de... Aujourd'hui, en fait, il le dit, la démocratie s'arrête là où commence la raison d'État. Donc c'est un peu pareil pour la politique d'immigration. C'est l'État qui est central, c'est l'État qui décide de tout et on ne réfléchit pas à cette politique par rapport aux principaux intéressés, c'est-à-dire les étrangers.
Bien, ce sera le mot de la fin, la conclusion. Merci infiniment, Serge Lama. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Charles Pasqua, 1993-1995. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Achille Aknin.